C'est très beau ces textes pour se ressourcer. Pourquoi? Parce qu'ils nous parlent de Dieu. Et ça, c'est la seule chose qui puisse vraiment rafraîchir nos âmes en ce monde. Le monde nous parle de tant et tant de choses, mais de l'homme en fin de compte. Et c'est pas si rafraîchissant que ça. Alors on a besoin de se retirer, comme fait Jésus, une nuit entière. C'est pas, il n'attend pas 10 minutes hein, pour rejoindre les disciples, il attend que la fin de la nuit. Oui, on a besoin d'entendre parler de Dieu et ces textes, en particulier le premier, la rencontre d'Élie avec le Seigneur face à face, et puis maintenant cette marche sur la mer, nous parle vraiment de Dieu, de sa gloire. On a ici deux immensités qui se rencontrent dans ce texte, l'évangile-là. On a la montagne. C'est l'immensité dans le sens vertical, la transcendance. C'est là que Jésus prie. Et puis vous avez une autre immensité qui s'y oppose en quelque sorte, c'est l'immensité de la mer. Elle est complètement horizontale, celle-là, et elle se perd jusqu'à ce que nous appelons précisément l'horizon. Deux immensités complètement opposées l'une à l'autre. Et pourtant, c'est bien sur la mer, eh bien, que Jésus va rejoindre ses disciples. C'est là qu'il les envoie. Ils vivent au bord de la mer. Élie, revenons à lui. Élie, il a fait l'expérience que Jésus a faite, au moins bien, parce qu'il n'est pas Dieu, lui. Mais il a été sur la montagne, sur l'Horeb, sur l'ordre de Dieu, pour que Dieu puisse se manifester à lui en esprit et en vérité. Et on a cette description là du vent là qui fend les rochers, du tremblement de terre qui rend tout instable, et puis ce feu qui dévore tout. Trois signes qui précèdent la véritable manifestation de Dieu, véritable entre guillemets. Je dirais plutôt la saisissable manifestation de Dieu de la part de l'homme. Trois éléments qui expriment plusieurs choses. Dans l'ordre négatif, eh bien, ces éléments manifestent la résistance du monde à Dieu. Les trois ennemis semblent de Dieu et de son désir de rencontrer les hommes, chacun d'entre nous. Eh bien, se manifestent un peu ces trois ennemis, c'est traditionnellement. Ce sont les démons, c'est le monde, sa logique, sa permanente, ses valeurs, et il va toujours vers le bas, ce monde-là qui nous entoure, et enfin, les hommes. Parce que les hommes sont complices, eux aussi, de tout cela, et nous-mêmes, nous le sommes, nous avons une part qui est obscure, une part qui ne veut pas se laisser conquérir par l'amour divin. Et Dieu, donc, doit s'imposer en quelque sorte avec puissance, d'où les trois signes, ces trois éléments, ces trois signes qui se manifestent là. C'est comme si il donnait cette grâce à Élie, eh bien, de vaincre et les démons et le monde et lui-même. C'est pourquoi ces signes précèdent le grand signe de la présence de Dieu. La prise légère, mais qu'il faut traduire littéralement par un silence ténu, un silence. Mais tout léger, prêt à se rompre, prêt à devenir parole, baiser. Et ce silence ténu, combien il s'oppose aux trois signes précédents. Là, c'est plus pour une purification qu'il est donné. C'est la véritable présence de Dieu, celle de la communion spirituelle, celle que l'homme peut expérimenter en termes de communion. On peut expérimenter les trois autres signes de la présence divine, mais on ne peut pas entrer en communion avec ces trois éléments-là. Ces trois éléments, ce sont les attributs de Dieu. Dieu est omniscient, comme ce vent devant lequel rien ne peut résister, aucun mensonge. Et le souffle dans la Bible, c'est le symbole de l'esprit, c'est le symbole de l'intelligence. Il est omniprésent, ce que le tremblement de terre semble suggérer, parce que le tremblement de terre a pour conséquence de tout ébranler et rien n'est épargné quand il y a un tremblement de terre. Personne, aucune maison, rien du tout. Et enfin, il est omnipotent comme ce feu qui dévore tout et auquel rien ne résiste. C'est bien trois éléments divins, mais avec lesquels les faibles créatures que nous sommes ne peuvent pas entrer en communion, elles sont réservées à Dieu. Nous ne pouvons pas créer une intimité avec l'omniscience d'un Dieu qui s'oppose à notre ignorance, son omniprésence qui s'oppose à toutes nos absences et distractions, son omnipotence avec notre faiblesse fondamentale. Mais nous pouvons entrer en communion par autre chose, ce silence ténu. Et ce silence ténu, eh bien, il préfigure le Christ. Il préfigure cette incarnation par laquelle le Christ, eh bien, se rend présent et, signe de communion, objet de communion de l'homme avec Dieu. Il est à la fois homme et Dieu. Donc, il a réalisé la communion et il nous appelle, chacun d'entre nous, à la réaliser nous-mêmes en le rencontrant. Alors revenons à la marche de Pierre maintenant. Ça, c'était Jésus qui était sur la montagne. Les disciples ne sont pas encore assez mûrs pour rester sur la montagne. C'est pourquoi Jésus les a congédiés, là, dans leur élément. Et leur élément, là, pour l'instant, c'est la mer. C'est le monde. Les eaux, en effet, ça représente vraiment le monde. Et en tant que, dans son opposition à Dieu, le monde ne peut pas entrer en communion avec Dieu. Le monde, c'est aussi opposé que la mer à la montagne. Et le monde est opposé au royaume de Dieu de la même manière, radicalement. Pour les disciples, eh bien, lorsqu'ils voient Jésus marcher sur les eaux, ils le prennent pour un fantôme. Ils sont paniqués. Ils crient. Ça correspond à quoi dans notre expérience? Eh bien, ils sont au-dessus des eaux, là, quand même, par la foi, heureusement. Mais néanmoins, Jésus qui vient dans sa divinité, vous voyez, essayons de ressentir un petit peu de cet épisode inouï. C'est un peu comme la transfiguration en négatif. La transfiguration, c'était sur la montagne. Mais là, c'est un dévoilement manifeste de la divinité du Christ, comme à la transfiguration, mais en négatif, en quelque sorte. Ça se passe de nuit et sur la mer, qui est bien l'opposé de la montagne. Et là, les disciples prennent conscience que cette foi que Jésus est en train de leur communiquer va changer, bouleverser leur existence. Et ils sont pris de vertige face à ça. Et ils se disent qu'ils ne pourront plus vivre comme avant et avec la même familiarité avec les autres hommes. C'est comme si ils allaient ressembler à des fantômes dans le sens spirituel du terme. Un être suspendu entre terre et ciel et qui n'est ni de la terre, mais qui n'est pas encore du ciel. Pas encore dedans, en tout cas. Qui tend à y aller, mais qui n'est pas dedans. Un être solitaire, ça va être horrible, la foi en Jésus. Ça va vraiment nous extraire du monde. Évidemment, tout ça, c'est des illusions. C'est la peur, c'est la perte des secours de la raison, dit le livre de la sagesse, et c'est bien ce qui se passe pour eux. Ils déraisonnent. Ils avaient déjà déraisonné au moment de la transfiguration. L'expérience est trop forte pour notre nature humaine. Donc c'est vraiment une expérience de la transcendance que Jésus réalise en marchant sur les eaux. Les eaux, qui représentent le monde, ne peuvent pas absorber Jésus, absorber Dieu, le faire disparaître de son univers. Elles ne peuvent pas. Ils marchent au-dessus sans rien craindre. Les vagues ont beau s'agiter, il est inébranlable, inatteignable. Et Pierre, eh bien, voudrait bien faire cette expérience, il le demande à Jésus, comme nous le demandons nous-mêmes. Seigneur, donne-nous un peu des ailes pour ne pas avoir peur du monde, pour pratiquer les vertus, pour rendre témoignage à ton saint nom, etc. Mais on est comme le poussin, on a beau agiter nos moignons, on n'y arrive pas. Hein. Ça manque de plumes, tout ça. Et c'est Jésus, là on a un passage qui est vraiment unique. Jésus fait faire à Pierre une expérience anticipée. Il lui faudrait beaucoup plus de foi, pour ça il n'est pas assez mûr. Mais il lui permet d'en faire une expérience anticipée. Ça nous arrive aussi à nous dans la vie spirituelle, ça. Alors on se croit déjà arrivé et puis on redevient vite limité par nos forces ordinaires et on a l'impression qu'on a complètement régressé dans la vie spirituelle. C'est faux. Simplement, Jésus avait donné en avance d'Ouarie quelques grâces que nous ne méritions pas. Et donc, il marche, commence à marcher sur la mer. Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'il commence à comprendre que les valeurs du monde sont fondées sur le mensonge, qu'elles ne sont, elles sont sans finalité, elles sont mortifères. Il commence à respirer cet air-là, l'air du ciel, et il est porté par cet air-là dans une certitude qu'il n'avait jamais connue avant. Il marche sur les eaux. Et puis d'un seul coup, malgré lui, c'est inévitable dans son cas, il regarde à nouveau ce monde et ses valeurs et son déchaînement et ses menaces. Tu ne seras plus l'un des nôtres, etc. Et il a peur de tout donner pour Jésus, en fait. Et à ce moment-là, il enfonce dans le marasme quotidien de cette vie toute humaine où Dieu n'est pas. Mais quand même, il crie au secours et Jésus n'a pas l'intention de le laisser se faire engloutir. Il le sauve, il nous sauve de la même manière tous les jours. La barque, c'est bien sûr l'image de l'Église traditionnellement, puisque c'est des apôtres qui sont dessus, mais c'est aussi l'image de l'âme. J'aimerais développer dans ce sens-là l'expérience du silence ténu du prophète Élie. Eh bien, c'est une expérience de douceur, après, qui fait suite à une expérience de toute puissance. Et eh bien là, c'est pareil. La barque, c'est le lieu où il retrouve la tranquillité. Jésus, dès qu'il monte dans la barque, eh bien, tout se calme. Et tout cesse d'être obscur, parce que Jésus est vraiment la lumière du monde, et c'est ça que la foi qui permet de marcher sur les eaux, eh bien, nous donne. On ne peut pas marcher sur les eaux du monde, ses valeurs, je le répète, sans avoir Jésus pour lumière, et sans comprendre que tout le reste n'est qu'obscurité. Et c'est cela, c'est cette douceur-là, la lumière qui vient dans la barque de notre âme, qui y reste, et qui demeure, qui nous réchauffe et qui nous conduit, c'est Dieu lui-même. Alors achevons sur l'image du baptême, puisque c'est le moment où ce Dieu est insufflé en nous sacramentellement. Le baptême, c'est la réponse de Dieu aux eaux du monde, aux valeurs du monde, au baptême que le monde impose à ceux qui sont ses prisonniers, car le monde n'a pas de famille. Le monde n'a que des prisonniers. Et puisque des hommes sont tous faits, tous appelés à retourner auprès de Dieu. Donc, il faut les enchaîner, et les eaux, c'est ça. Demandons vraiment au Seigneur, contemplons ces beaux textes qui nous parlent de Dieu, pas tellement de nous-mêmes, mais de Dieu, de ce qu'il est. Et renouvelons notre confiance en lui. Grâce, à tout cela.